Forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Chez Ixina, votre cuisine est conçue sur mesure. En plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Et en plus, elle est garantie 10 ans. Ah oui, et en plus, en ce moment, c'est TVA offerte. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Carrefour. Quand vous me dites, moi les légumes, je les préfère de saison et français.
Eh bien, je vous réponds que la botte de 500 grammes d'asperges violettes origine France est au prix le plus bas de 3,89€, soit 7,78€ le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, calibre 16-22, détails sur carrefour.fr.
Précisément 11h01.
Parlons vrai.
Et un point sur l'info avec Nicolas Gomez. Bonjour.
Bonjour à tous. Ce dimanche a été la journée la plus foudroyée depuis ce début de l'année. De nombreux orages ont touché la Bourgogne, la Normandie et les Hauts-de-France. Ce matin, Météo France a placé le département du Calvados en vigilance orange au cru. Le niveau de la Dive connaît une hausse importante en ce moment. C'est le rendez-vous pour attirer les investisseurs du monde entier. Emmanuel Macron est attendu cet après-midi au château de Versailles pour le sommet Choose France avec 180 entrepreneurs étrangers. Et déjà, l'Elysée annonce une 7e édition record avec près de 15 milliards d'euros injectés dans l'économie française. Pour le directeur de Business France, ces 15 milliards d'euros d'investissement permettront de créer ou maintenir plus de 10 000 emplois. De nouveaux éléments dans l'enquête du corps retrouvé dans une valise à Paris. Selon les informations du Parisien, l'homme aurait été tué à main nue. Pour rappel, samedi, un corps démembré a été découvert par les pompiers sous le pont d'Austerlitz dans la capitale. Le principal suspect s'est rendu de lui-même à la police. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. En Géorgie, des manifestants dans la rue contre le projet de loi sur l'influence étrangère. Ils étaient un millier ce matin devant le Parlement. Ce texte imposerait aux ONG et aux médias financés à plus de 20% par d'autres pays de se déclarer comme agents de l'étranger. En Indonésie, le bilan s'alourdit. Des pluies diluviennes ont fait près de 41 morts et 17 disparus. Les intempéries ont provoqué d'importantes inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra. 7000 acteurs et comédiens demandent aux plateformes de mieux les rémunérer. Agnès Jaoui, Alain Chamfort ou encore Swan Harlow, ils signent une lettre ouverte. Ils demandent aux géants Netflix notamment d'être rémunérés proportionnellement au succès de l'œuvre à laquelle ils collaborent. L'année dernière aux États-Unis, les acteurs et scénaristes américains avait entamé la plus longue grève d'Hollywood pour réclamer entre autres la même chose. Et puis on termine avec un mot de rugby, le Stade Toulousain, nouveau leader du top 14. Les Rouges et Noirs ont détrôné le Stade Français après leur victoire 49-18 face aux Parisiens. Toulouse est à 3 points d'avance sur leur dauphin. Voilà pour l'actu, bonne journée à tous.
Merci, prochaines infos tout à l'heure à midi. Et c'est l'heure des courses et de retrouver Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour ma chère Christine, bonjour à tous.
On va directement à l'hippodrome de Vichy-Bellerive, c'est ça?
Et c'est tout à fait exact. Le prix de 5% sur Sioule dans la quatrième course de la Réunion 1 va nous être présenté pour le Quintet sur 2950 mètres où ils seront 15 concurrents en piste. Le 13 de Giborwell reste en deuxième ici, peut s'imposer cette fois-ci devant le 5 Galopin de Blot, 14 Gloire du Perche, 15 Elixir du Rabutin, 9 Fée du Vernet, la Funky Berry, 4 Héros d'Ivel et 10 Rokiti. 13, 5, 14, 15, 9 à 4 et 10. Pour la sélection du jour à Lisieux, en réunion 4 courses 2, le numéro 2, Gilles Duvivier.
Merci beaucoup et je rappelle que votre sélection Jean-Paul ainsi que les résultats des courses sont à retrouver sur notre site sudradio.fr.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Et nous sommes au complet en compagnie de Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Fabrice Akoun, chef d'entreprise également, auteur de Rallumons les Lumières aux éditions de l'Archipel. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Mathieu Vallée qui est candidat RN aux Européennes, ancien commissaire de police et avec nous également Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. On en était au coup de cœur et au coup de gueule. On entendait la déception de Benjamin Cauchy sur les prestations à l'Eurovision samedi soir. En tous les cas, les candidatures qui sont proposées par les chaînes de télévision des États qui concourent à l'Eurovision, évidemment. Donc, un coup de griffe, j'allais dire, de Benjamin pour ça. Mais vous, Fabrice, vous aviez un coup de cœur pour un film au cinéma.
Ouais, tout à fait.
Et tout le monde est du même avis. Enfin, tout le monde est la même chose que vous.
J'ai adoré. J'y suis allé. Donc, c'est un petit quelque chose en plus. D'Artus. Et alors, je ne sais pas par quoi commencer. D'abord, il ne tombe jamais dans le pathos, en fait. C'est-à-dire que on voit.
C'est avec des. Alors, on va le dire, c'est avec des acteurs trisomiques, etc.
Absolument, handicapés. Voilà, avec d'abord un spectre très acteurs, large, oui. Et puis un spectre très large de handicap, de gens en situation de handicap, autistes. Vous avez effectivement trisomiques, etc. Donc, ils tombent pas dans le pathos. Vous voyez, c'est un film où les acteurs jouent vraiment leur rôle. Donc, déjà, le film est super sur tous les plans et surtout, ce qui est important, alors là, c'est un espèce de coup de cœur, mais aussi coup de gueule, c'est que Artus s'est plaint parce qu'ils vont monter les marches du Festival de Cannes et aucun des grands créateurs qui d'habitude habillent les acteurs n'a voulu habiller ces acteurs-là. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. À l'heure où on parle en permanence
ils n'ont pas voulu,
de RSE, ils disent qu'ils n'ont pas de quota, qu'ils ont dépassé leur quota de vêtements à prêter. Enfin, vous imaginez des grandes marques qui parlent d'avoir dépassé leur quota de vêtements à prêter. Et là, j'ai trouvé ça absolument incroyable, parce qu'on nous rebat les oreilles en permanence avec la RSE.
Incroyable.
Toutes les entreprises viennent et nous expliquent qu'elles font des choses formidables pour l'inclusion. On les voit sur LinkedIn s'exprimer de tous les côtés. Puis là, tout d'un coup, quand il y a quelque chose de formidable à faire, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils ont probablement dépassé leur quota de communication autour de la RSE. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Et ça me démontre bien le décalage qu'il y a entre la réalité de ce que vivent aujourd'hui les gens qui sont en situation de handicap et la manière dont ils sont perçus, la manière dont c'est instrumentalisé parfois par le monde de l'entreprise. C'est un peu comme la journée des droits des femmes dont on avait parlé à une époque, on en avait bien parlé aussi.
Bien chamaillé.
Ouais, exactement, c'était bien chamaillé là-dessus. Donc c'est pareil, mais bon, je reste quand même sur le coup de cœur pour ce film extraordinaire qui est extrêmement touchant avec un Clovis Cornillac et un Artus absolument géniaux et puis tous ces acteurs qui sont formidables de naturel en fait.
Et du bouche à oreille, c'est un démarrage fulgurant. Ce film hein, qui cartonne.
Et c'est pas étonnant parce
que quelqu'un l'a vu autour de la table encore Benjamin.
Pas encore.
Donc, bon voilà, il y a encore
touchant.
Il y a encore de la marge mais ça fait du bien.
Exactement,
moral,
exactement.
Ce genre de
exactement
de
parce
petite...
que c'est en fait il y a un décalage de plus en plus grand entre ce qu'on appelle le monde réel que nous vivons tous et puis et le monde que certaines élites vivent, et là on revient dans le monde réel en fait, et ça c'est génial.
Donc foncez voir comme Fabrice Hakoun, donc le petit truc en plus qui est signé Artus, qui est au cinéma, qui est un film visiblement formidable. Les critiques sont et le public est au rendez-vous. Donc ça veut dire qu'il se passe aussi quelque chose.
Exactement.
du côté de ce film là. Geneviève, un coup de cœur ce matin pour démarrer la semaine.
Eh ben un coup de cœur pour Valéry Giscard d'Estaing. Ça fait 50 ans qu'il était élu à l'Élysée et ce soir ses anciens jeunes partisans se rassemble sur l'esplanade Valéry Giscard d'Estaing pour mettre en exergue un certain nombre de réformes. Non, vous pouvez sourire, mais
j'ai pas pleuré.
Avant Giscard, on votait pas à 18 ans.
Mais
on
n'avait pas dit le
contraire. Non, mais
bien sûr, il était très très moderne. En fait, celui qui l'a massacré.
Avant, je vais finir mon coup de cœur après vous. Voilà.
Malheureusement, ça n'a pas réussi.
Laissez Geneviève terminer.
Donc avant Giscard, quand on voulait avorter, malheureusement, on se retrouvait voilà. Avant Giscard, la contraception n'était pas gratuite. Avant Giscard, quand on voulait divorcer, il fallait inventer une faute à son conjoint ou à sa conjointe. Avec Giscard, divorce par consentement mutuel. Avant Giscard, le viol n'était pas considéré comme un crime. C'est lui qui a criminalisé le viol. Avant Giscard, il n'y avait pas de statut de l'enfant adopté. Il n'y avait pas d'allocation de parents isolés. Il n'y avait pas de minimum vieillesse. Il n'y avait pas de statut du conjoint. La condition pénitentiaire, on pourrait en parler. Quand on était détenu, on n'était pas seulement détenu, on était traité comme un chien dans nos prisons. Avant Giscard, le handicap en entreprise ne faisait pas l'objet de mesures particulières. Avant Giscard, il n'y avait pas de contrat emploi-formation. Avant Giscard, il n'y avait pas de collège unique. Il n'y avait pas de système monétaire européen. Il n'y avait pas d'élection du Parlement européen au suffrage universel. Il n'y avait pas de Conseil européen. Il n'y avait pas de TGV. Il n'y avait pas de Conservatoire du littoral. Enfin bref, je pense que c'est le président de la République le plus réformiste que ce pays ait jamais connu et que donc il faut lui rendre hommage à l'occasion de ce 50e anniversaire de son élection.
Et qu'est-ce qui fait qu'il a, enfin en tous les cas, on n'a pas cette mémoire en fait de toutes les réalisations qu'on lui doit?
Pourquoi on n'a pas cette mémoire?
Est-ce que c'est son image un peu serrée, guindée, un peu... Un peu décalé, hein, finalement.
Je ne sais pas si on garde cette image en mémoire. On garde surtout en mémoire la trahison dont il a été l'objet en 1981 de la part de Jacques Chirac, Charles Pasqua, qui ont clairement appelé à voter contre lui et pour François Mitterrand. Voilà ce qu'on garde. Mais c'est important, ce 50e anniversaire, justement, de se souvenir à quel point, sous son septennat, son unique septennat, la France a profondément changé. Et à quel point un certain nombre de réformes qu'il a initiées, qu'il a menées, qu'il voulait, parce que vous parlez de son image, il y avait sans doute un décalage d'abord entre la famille politique dont il venait, le milieu social dont il venait, et cette envie de réforme, cet engagement européen très fervent qui était le sien.
Et qui était déjà en plus un précurseur aussi dans la communication populaire avec ses émissions de télévision.
Hein. Où il allait chez les Français. Vous n'avez pas cité les télécoms, il a été quand même le grand réformateur des télécoms. On était très en retard, pourtant un pays très innovant comme la France, très en retard sur les télécoms. Donc il a été un grand réformateur sur ce plan-là. Après, vous citez quelques réformes qui sont un peu plus douteuses, comme effectivement le collège unique. Il y a eu aussi un certain nombre de sujets autour du regroupement familial, etc., où on lui prête des réformes qui ne sont pas totalement aujourd'hui, qui ont des conséquences en tout cas plutôt difficiles à assumer. Mais c'est vrai que ça a été un homme remarquable qui a surtout subi la trahison, en fait. Je veux dire, Chirac, enfin, on doit à Chirac d'ailleurs la plupart des grandes trahisons. Mais bon, on va pas. C'est pas le sujet.
Mathieu Vallée, et après, moi, j'aimerais savoir aussi Benjamin qui retient des jeux.
Je suis très admiratif de Lynn Renault, qui a été l'une des pionnières dans la lutte contre le sida, hein, à l'époque où ils étaient vus comme des pestiférés, où on mourait rapidement lorsqu'on était diagnostiqué porteur de cette maladie. Elle expliquait, lorsqu'elle fêtait son anniversaire sur France 2 il y a quelques temps, que ça avait été le président le moins sympa, le plus hautain et le plus méprisant. Et venant de Lynn Renault, je pense qu'on peut pas la taxer d'anti-présidentialisme ou d'anti-personne. Et j'ai tendance à l'écouter, à la croire, parce que quand je vous dis ça, je vois avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce qu'on en a souvent parlé, ils sont populaires parce qu'ils aiment les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre République, c'était à mon avis des traits de Jacques Chirac, quand il t'appelle le cul des vaches ou quand il disait que les pommes c'était la vie lors de la campagne de 95, entre autres. Je pense que, en fait, c'est important que les gens sentent qu'on les aime réellement, qu'on se préoccupe de leurs problèmes et qu'on apporte des solutions concrètes, et on l'évoquera juste après, à mon avis, sur mon coup de gueule. Mais c'est important aussi, et je pense que c'est ce que les gens aujourd'hui attendent, et c'est ce qui reproche Emmanuel Macron, sa condescendance, ces petites phrases assassines, comme il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, comme dans une gare on côtoie ceux qui sont rien et ceux qui réussissent, quand il dit aussi que Florian, le policier qui a tué Naël, par rapport à un refus d'obtempérer, c'était inexplicable, inexcusable, en bafouant sa présomption d'innocence, tout ça, ça compte. Voilà.
Bon, Lynn Renault étant très proche de Jacques Chirac, effectivement, elle pouvait sans doute pas dire autre chose.
Voilà. Oui, mais c'est une grande dame. Et je connais très peu d'artistes courageuses à l'époque, alors que c'était peut-être pas à la mode, comme diraient certains, et qu'aujourd'hui tous les artistes réunis sur ce site d'action qui est l'une des premières causes mortelles dans le monde. Je trouve que c'est une dame admirable dans son engagement.
Oui, mais
on est parti de Valérie Giscard d'Estaing, on en a Lynn Renault, Benjamin, l'héritage de VGE, en tous les cas, il doit se. Il y a du bon et du moins bon, peut-être, en fonction de sa sensibilité politique.
Oui, mais il y a beaucoup de réformes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont restées,
Il y a deux choses que je voudrais retenir. Ce qui est intéressant lorsque l'on célèbre le cinquantenaire, finalement, de l'élection du président Giscard d'Estaing, c'est aussi se rappeler que la Ve République, eh bien, malgré tout ce que nous vivons, résiste et tient le coup. Moi, c'est aussi ça que je vois, si on se prend encore un petit peu plus de hauteur, et que l'histoire de France, eh bien, effectivement, est longue et traversée d'embûches. Voilà ce que je vais retenir. Je retiens aussi de Valéry Giscard d'Estaing, au-delà de toutes les réformes, le regroupement familial. Je crois que ce jour-là, il aurait mieux fait de se retenir. Si c'est vraiment l'erreur qu'il a faite, il a su quand même transformer la société française. On peut lui reconnaître cette action politique. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le dernier président. Vous parliez que c'était un président qui rentrait dans l'ère de la communication. C'est peut-être le dernier président avoir eu une légitimité par l'action et non pas par la communication qu'il mettait autour de ces événements. Après, avec Mitterrand, Chirac, nous sommes partis dans une ère de communication politique beaucoup plus importante. Et peut-être que Valéry Giscard d'Estaing, on peut lui reconnaître le prestige de la fonction présidentielle. Lui, en tout cas, il l'incarnait. Voilà.
Et quelle réforme, pour finir
Pour les femmes, il y a eu quand même beaucoup de réformes
exactement. Qui sont cruciales. On peut être sympathique et pas faire grand-chose. Voilà. Et de quelle réforme de Jacques Chirac se souvient-on aujourd'hui ? En quoi Jacques Chirac a-t-il marqué la société française? Moi, de Jacques Chirac, je regarde le discours du Veldiv. Voilà. À part
et
ça, après,
et notre maison brûle,
notre maison brûle.
Bon, c'est un débat qu'on va refermer tout de suite. On va faire une petite pause de publicité, si vous le voulez bien, une pause sur Sud Radio. Et on se retrouve en compagnie de Geneviève Götzinger, Mathieu Vallée, Fabrice Accoud, Benjamin Cauchy pour débattre de ces sujets d'actualité de ce lundi 13 mai. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, j'ai vu que pour la fête des mères, vous faites une promo sur une brosse qui sèche les cheveux et qui coiffe en même temps.
Tout à fait, elle est top.
Je voulais vous dire que c'est une super idée. Parce que faire deux choses en même temps, nous les mamans, ça nous connaît.
On est là pour vous simplifier le quotidien. Alors du 14 au 25 mai pour la fête des mères, la brosse soufflante Revlon avec 10 euros de réduction est à 39,90 €.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Périgueux.
104.9.
Sud Radio.
Si tu dors mal à cause des stores en panne,
Service Store trouve la pièce qui te dépanne.
2000 pièces made in France ou en Europe.
Moteur de store, volet roulant toujours au top.
Alors pour un sommeil réparateur,
répare tes stores chez un leader.
Connecte-toi sur servicestore.com.
Servicestore.com, choix et qualité,
c'est tout comme.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
À 7h du matin, certains dorment et d'autres se lèvent. Mais à 7h du matin, vous, les professionnels du bâtiment, vous êtes déjà prêts à tout donner. Alors chez Leroy Merlin, on donne le maximum pour vous en ouvrant la cour des matériaux et le service retrait marchandises dès 7h et jusqu'à 20h. Et ça aide pour finir dans les temps.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah le patron, elle est à 1,39€.
Dans quoi on s'est embarqué?
Dans les barquettes de framboise. En ce moment chez Lidl, la barquette de 125 grammes est à 1,39€. Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%. 1,18€ la barquette.
Bon, t'arrêtes avec tes barquettes.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 11,12€ le kilo, 9,44€ avec l'application Lidl Plus. Catégorie 1, origine Maroc, Espagne, Portugal. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Et nous sommes toujours en compagnie de Geneviève Götzinger, Mathieu Vallée, Fabrice Accoun, Benjamin Cauchy. Je me tourne vers vous, Mathieu Vallée, pour votre coup de gueule, coup de griffe, ce matin, parce que c'est le tour de table, c'est au sujet des pompiers volontaires.
Oui, on est sur les élections européennes et puis beaucoup de partis, dont celui du président de la République, se plaignent qu'on parle pas des sujets européens. Moi, je vous ai ramené un document qui est le statut des sapeurs-pompiers volontaires en France. Vous savez qu'on a 252 000 pompiers, tout confondu en France, qui sauvent ou qui périssent, hein, c'est leur devise. Et en fait, on a 79% de ces effectifs qui sont des sapeurs-pompiers volontaires, ça veut dire des gens qui, en plus de leur travail, s'engagent pour protéger et sauver la nation. L'Europe, par une directive de 2003, veut faire de ces volontaires, de ces courageux bénévoles, des travailleurs à part entière, ce qui font qu'ils ne pourront plus cumuler leur travail et cet engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Et Emmanuel Macron, depuis 2018, s'est engagé à ce qu'il y ait une directive spéciale qui permet de protéger ce statut, non seulement en France, mais aussi en Europe. Quand vous avez les sociétés nationales de sauveteurs en mer, la Croix-Rouge, quand vous avez les réservistes de la police, de la gendarmerie, de l'armée, toutes ces personnes sont soumises à ce statut. Et il l'a promis, il ne l'a pas fait. Il y a eu des déclarations de bonne intention devant le Congrès des sapeurs-pompiers, il y a eu des déclarations lors de la présidence française de l'Union européenne, mais ça n'a toujours pas abouti en 6 ans et même en 50 ans mandature européenne où Valérie Hayer était déjà dans le groupe Renaissance. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a pris deux engagements lorsque Jordan Bardella a rencontré les sapeurs-pompiers de France il y a 15 jours. On leur a dit qu'on pousserait pour une directive, c'est ça, qui protégera ce volontariat. Et on ira même plus loin, on fera un Erasmus européen des pompiers. Parce que vous savez que par les feux d'été, par les inondations dans le Pas-de-Calais, par exemple, en début d'année, ou par les grandes catastrophes naturelles et les sinistres que connaît désormais notre nation et même l'Europe, hein, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, pour évoquer que ces pays-là qui ont été soumis à des incendies extrêmes, eh ben, il faut qu'on puisse partager notre compétence, notre savoir-faire, notre doctrine.
Ça veut dire quoi un Erasmus des pompiers?
Eh ben, les pompiers pourront aller d'un pays européen à l'autre pour partager
leur
doctrine.
Mais c'est déjà le cas?
Pas du tout. Ça n'existe pas, l'Erasmus européen des pompiers. Vous avez Rescue-E, c'est un système de mécanisme de solidarité européenne pour partager les bombardiers, les canadaires, les hélicoptères.
Il y a des colonnes de pompiers de chez nous qui partent en Espagne.
Bien sûr, mais vous savez que moi, on a parlé avec les sapeurs-pompiers de France, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Et dans cet ouvrage que je vous invite à lire, qui est public sur leur site, qui est très intéressant d'une cinquantaine de pages, ils expliquent que par exemple sur les matériels, les équipements, les doctrines d'intervention, c'est pas du tout les mêmes, et que cet Erasmus permettrait de partager le savoir-faire français au niveau de l'Europe, mais réciproquement également, et puis de partager les compétences et d'une certaine manière l'état d'esprit pompier et de la protection civile en Europe.
Ils sont même partis au Canada l'été dernier pour sauver des grands incendies.
En intervention, pas pour étudier.
Intervention. Et ici, il y a des échanges d'études. Enfin, ça existe déjà.
Écoutez,
sauf erreur de ma part.
C'est une erreur de votre part. Je ne veux pas vous mettre en désobligeance dans votre émission, mais voyez, créer un Erasmus de la sécurité.
Oui, non, mais créer un Erasmus pour faire la protection civile. Mais des échanges entre les pays européens existent déjà.
Mais c'est des échanges ponctuel dans les bonnes volontés des uns et des autres. Nous, on veut institutionnaliser ça comme ça marche pour les étudiants classiques qui permettent de parfaire leurs compétences, leur expérience dans des pays étrangers qui n'ont pas forcément.
Pourquoi cette directive européenne aujourd'hui impose des horaires bien définis? C'est quoi l'idée de départ?
En fait, l'idée de départ, c'est qu'il y a un cadre d'horaire maximal qui est 12 heures, prévu par l'Europe, par ce qu'on appelle la DETT, la Directive Européenne du Temps de Travail, en 2003, saisie par un travailleur qui estimait être lésé dans le cadre de son activité, qui était pas reconnu en tant que tel. Sauf que aujourd'hui, être pompier volontaire, c'est en plus de son travail, s'engager pour la nation. Être réserviste dans la police et la gendarmerie, c'est en plus d'être boulanger, en plus d'être salarié, en plus d'être chef d'entreprise, de pouvoir faire des contrôles routiers, de pouvoir participer avec des policiers titulaires à des interventions, à des gendarmes, à la lutte contre la délinquance. Les sociétés nationales de sauveteurs en mer, ces gens qui sont sur nos côtes, sauvent les bateaux et les personnes qui sont en train de périr. C'est que des volontaires. Donc si demain, vous n'avez pas un statut qui les protège, on mettra la clé sous la porte. Si vous voulez, cette directive que nous appelons de nos voeux, ça sera le vaccin qui permettra de protéger le statut de la protection civile européenne.
Et ça veut dire qu'il faut les rendre professionnels, il faut qu'ils fassent que ça. C'est ça que vous proposez, vous?
Non, pas du tout.
Le contraire.
J'ai pas été clair. Non, au contraire, vous avez...
Mais ils sont déjà protégés. Je comprends pas ce que la différence...
Parce que cette directive...
En fait, c'est des volumes horaires qu'on interdit aujourd'hui par le directeur.
Dans le Var, par exemple, où il y a plus de 89% des pompiers qui sont volontaires, lorsque un salarié finit sa journée et qu'il a fait plus de 12 heures, si son beeper sonne parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a un secours à personne à faire, il ne pourra pas y aller parce qu'il ne respecte pas les temps de travail imposés par cette directive européenne.
En même temps, après 12 heures de boulot, aller sauver des gens pendant des heures,
aujourd'hui,
c'est peut-être compliqué.
C'est un engagement citoyen. Quand vous avez des astreintes, quand vous avez des permanences, quand vous avez un engagement volontaire des sapeurs-pompiers, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire fonctionner notre protection civile. Mais je vais aller plus loin. Quand vous avez des feux de forêt, les feux de forêt, ils commencent pas à 8h, ils terminent pas à 18h. Mmh. Vous avez des gens qui font des heures et des heures. Pour tous les métiers de corps, c'est pareil. Dans les sociétés nationales de sauveteurs en mer, on a besoin, sur des horaires qui sont pas ceux par forcément des bureaux, de pouvoir sauver les gens et les bateaux en mer.
Alors, Benjamin, vous voulez intervenir. Benjamin.
Oui, juste un complément par rapport à l'information de Mathieu Vallée sur cette directive. Effectivement, ça fait depuis 2003 qu'on entend parler, hein, la volonté pour la Commission européenne, finalement, de faire disparaître soit d'un côté le bénévolat dans des associations, ou là, pour le coup, de supprimer le statut de volontaire. Et l'incidence qu'elle peut avoir, c'est en termes de conséquences juridiques, c'est de requalifier finalement la passion et l'engagement de sapeur-pompier volontaire comme un travail. Et donc, du coup, question des cotisations sociales va se poser derrière pour les collectivités qui recrutent ces sapeurs-pompiers volontaires. Donc derrière, il y a tout le modèle économique des sapeurs-pompiers qui peuvent être mis en jeu. Donc je veux dire, ça a des incidences bien plus graves que celles d'un volume horaire à respecter.
Oui, avec aussi des questions, comme vous dites, Benjamin, des questions de cotisation.
En Allemagne, ils sont 1 300 000 volontaires en Allemagne, parce que l'Allemagne s'exonère cette directive sans même avoir l'aval de la Commission.
Bah, depuis 2003, on s'en exonère aussi, nous, pour l'instant.
Non, parce qu'on a des jurisprudences administratives, c'est-à-dire des gens qui saisissent ces tribunaux qui vont dans ce sens-là, mais on ne peut pas être tributaire de l'insécurité juridique pour protéger notre modèle de protection civile. Il faut qu'il y ait une directive qui protège ceux qui nous sauvent au quotidien.
Allez, on va s'intéresser maintenant au premier sujet ce matin. On va parler donc de ces 15 milliards d'euros, puisqu'on a plein de chefs d'entreprise autour de cette table, pour pouvoir essayer de décortiquer ces annonces qui vont être faites aujourd'hui. Hein. C'est Choose France, ça se passe à Versailles. 15 milliards d'euros d'investissement, ça va de l'avion électrique aux batteries, en passant même par de l'hydrogène. On va chercher de l'hydrogène, bref, des investisseurs. C'est un record de ces annonces. Cocorico, alors je vais commencer avec Fabrice, on fera la pause et après j'entendrai Geneviève. Le chef d'entreprise que vous êtes, un peu que sont félicités.
Alors, c'est pas en tant que chef d'entreprise que je vais parler, mais en tant qu'ancien membre du Conseil stratégique pour l'attractivité, qui se réunissait autour de François Hollande et qui est devenu Choose France, en fait. Donc j'ai fait partie de cette commission pendant deux ans, 2013-2014. C'est, alors, il y a une réalité économique derrière ça, mais il faut pousser un peu plus loin. En fait, si vous voulez, c'est la vie quotidienne des affaires. C'est-à-dire que la France est un pays qui reste quand même malgré tout un pays attractif et qui attire très régulièrement des investissements. Je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel à tout ça. Il y a juste un effet d'annonce qui arrive juste avant les élections européennes et qui est destiné effectivement à montrer à quel point l'action du gouvernement est formidable sur ce plan-là. Mais j'ai eu exactement la même réaction en 2014. J'étais à Bercy à l'époque, on assistait à l'intervention d'Arnaud Montebourg sur le sujet où il se gossait de dire qu'à tel point il y avait des investissements étrangers en France, et on s'apercevait qu'en fait c'était quand même beaucoup moins qu'en Allemagne par exemple. Donc c'était en valeur absolue c'était intéressant, mais en valeur relative c'était pas tant que ça. Et puis après il faut voir quel pourcentage des investissements nationaux ça représente, parce que ça aussi c'est un élément qui nous intéresse. Est-ce que c'est un très gros pourcentage, un petit pourcentage? Donc ça pose plein de questions. Donc je pense qu'il faut creuser. En fait, annoncer comme ça, ça paraît formidable. Est-ce que c'est pas simplement business as usual, comme on dit dans nos métiers, c'est-à-dire que c'est le business classique qu'on a tous les jours, hein, et nous on est tous les jours là-dedans. Moi je co-dirige un groupe qui est un groupe international, donc on investit à l'étranger, les gens de l'étranger qui investissent chez nous, c'est quelque chose de courant. Voilà, maintenant on a un effet d'annonce qu'il faut creuser. En fait, il faudrait regarder dans les chiffres pour savoir si précisément ça représente quelque chose d'exceptionnel ou si c'est juste une réalité courante qu'on nous fait passer comme quelque chose d'exceptionnel.
Juste un exemple, la région Nouvelle-Aquitaine va bénéficier d'investissements qui viennent de l'Espagne, de Suède, d'Italie, de Suisse, de Belgique et d'Inde. Voilà ce qui est promis, oui, en tous les cas, dans ces filières, dans différentes filières. Donc vous dites, le diable se cache dans les détails par rapport à toutes ces annonces. Fabrice, on va y revenir dans un instant avec vous quatre. On va faire une pause et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Me voyez-vous, je suis là, au cœur de votre croisière MSC, dans les couleurs éclatantes des îles grecques et dans le scintillement de la mer. Alors cet été, embarquez pour la Grèce avec MSC à la découverte de Santorin, Mykonos ou Corfou à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr.
Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font chut,
mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 31 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote en version premium. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Sud Radio Aurillac
101
Sud Radio.
À tous ceux qui décident de ranger leur bibliothèque, à ceux qui se disent tiens, et si je regardais ce docu sur la photosynthèse, ah non, mieux, je vais me faire un sudoku. Bref, à ceux qui veulent tout faire sauf le ménage. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon entretien en deux bons d'achat, et chaque semaine profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 19 mai, des 15 € et jusqu'à 25 € d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures.
Assurance Prévention. Une association de France Assureurs.
Depuis 3 ans,
Plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commandes à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous condition d'éligibilité.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
Toujours en compagnie de Geneviève Götzinger, Mathieu Vallée, Fabrice Hakoun et Benjamin Cauchy. On en était donc à ces annonces qui sont faites aujourd'hui, Choose France, donc ce rendez-vous à Versailles de l'investissement étranger en France avec 15 milliards d'euros annoncés. Et donc avec vous Fabrice, vous disiez c'est un effet d'annonce, c'est un effet de...
Ça peut être un effet d'annonce,
voilà, un peu creuser, comme quand Airbus
regroupe
toutes ses commandes pour aller annoncer
mais je dis un peu en connaissance de cause, ayant fait partie de l'ancêtre de Choose France, qui était le conseil stratégique pour l'attractivité. À l'époque, on n'utilisait pas les anglicismes.
Mais quand même, est-ce que ça dit quelque chose quand même de l'attractivité de la France ? C'est la question que s'en pose tout le monde.
Quand même. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un décalage entre le discours ambiant de sinistrose véhiculé notamment par les extrêmes, les partis extrêmes dans notre pays, et la réalité de l'attractivité de la France qui demeure réelle avec... une image quand même qu'a impulsé Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée, une image très pro-business, une image très pro-entreprise, avec une fiscalité des entreprises qui est intéressante. Donc bon, le diable est dans les détails, vous avez raison, il faut regarder la réalité de ces 56 projets, voir ce qui déboucheront effectivement au-delà de l'effet d'annonce, dans la durée, dans le concret. Mais que la France est une image d'attractivité et au-delà de l'image qu'elle attire des entreprises, on ne peut que collectivement s'en féliciter. Mais
bien sûr, on s'en félicite, sauf que ce que je dis, 2 choses. La première, c'est combien ça va coûter en fonds publics et en subventions, parce que ça, c'est un élément quand même essentiel. Et la deuxième, c'est que c'est pas le fait du politique si la France est attractive. Faut juste que ça, c'est sûrement pas le fait du politique.
C'est
un territoire fantastique, c'est des entrepreneurs extraordinaires. Attendez, je suis désolé.
Moi, j'ai dirigé un groupe indien.
J'ai dirigé la filiale française d'un groupe indien pendant 3 ans, un grand groupe mondial d'origine indienne. Je peux vous dire que ce groupe a fini par se sauver du fait de l'insécurité juridique et fiscale permanente qui règne dans notre pays.
D'accord Fabrice, mais là les chiffres, c'est pas le gouvernement qui les donne, c'est l'INSEE qui dit que la France, il y a jamais eu autant d'investissements.
Mais je vous dis que c'est pas le fait du politique. Je ne dis pas le contraire, je trouve ça génial.
Et donc il y a bien des raisons intrinsèques.
Mais je dis que c'est pas le fait du politique. Je trouve que même le politique fait tout le contraire. Je dis simplement que c'est le fait des entrepreneurs, des travailleurs, du niveau de formation, d'un certain nombre de choses, mais pas du fait du politique.
Mathieu Vallée, allez-y. Alors, je rappelle, vous êtes candidat aux européennes pour Jordan Bardella. Donc, vous avez un avis certainement à l'opposé de tout ça. C'est important de resituer.
Moi, je suis dans le concret des territoires. Je sais que Choose France, c'est au château de Versailles que j'admire par l'histoire qu'il incarne. En tout cas, Emmanuel Macron, il se ferait bien d'aller à Saint-Avold. Mardi dernier, Jordan Bardella et Marine Le Pen tenaient un meeting à Saint-Avold. Et à côté, vous avez l'usine de Saint-Avold, qui est une usine à charbon, qui a été rouverte par Emmanuel Macron en 2022 pour sauver le marché de l'électricité français parce qu'on manquait d'énergie. Et à Saint-Avold, vous avez plus de 500 emplois qui sont concernés. Emmanuel Macron a fait la promesse de passer d'une centrale à charbon à un site biomasse. Ça n'a toujours pas été fait. Les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est la France qui ne se plaint pas, c'est la France silencieuse qui attend que ces promesses soient réalisées. Je rappelle qu'à côté, Hayange ou à Gondange sont des sites où tous les candidats, que ce soit François Hollande ou que ce soit Emmanuel Macron, avaient promis de les sauver. On connaît le résultat aujourd'hui avec la désindustrialisation qui en est la conséquence. Donc c'est bien d'être à Versailles, mais c'est bien aussi d'aller voir les territoires dans lesquels il a fait les promesses et qui ne sont pas tenues. Vous avez d'ailleurs des salariés qui ont érigé une tombe sur les promesses qui avaient été faites à l'époque.
Mais est-ce que vous félicitez qu'il y ait 15 milliards d'euros d'investis dans notre pays par rapport à ces choses-là?
Et moi, je me félicite toujours qu'on investit, mais si vous voulez, moi, je vous donne un autre exemple. L'arnaque du plan de relance qui concerne nos entreprises. On va reverser 67 milliards à l'Europe, alors qu'on va toucher 1 milliard pour lutter contre les délocalisations et 34 milliards pour la compétitivité des entreprises. Le compte n'y est pas. Quand on paye plus qu'on ne reçoit, il n'y a pas d'avantage. Ça, c'est aussi un point important. Vous avez aussi, effectivement, on peut en parler des chiffres, pour un investissement étranger, en France, vous avez 33 emplois qui est créé. En Allemagne, c'est 58 et en Espagne, c'est 329 emplois. Donc, on a encore des marges de progression. Donc, moi, je bien qu'on dise tout va bien, madame la marquise. Moi, vous savez, madame, je suis pas dans la Sinistrose ou dans la France Bassine. On peut pas me reprocher ça. Moi, je viens de l'Espagne. Ma mère vient de l'Espagne. La France m'a tout donné et je défends mon pays. Et je pense que je suis dans le parti aujourd'hui qui défend le mieux le patriotisme économique. Je termine juste sur ça. À Bruxelles, et Emmanuel Macron, pourquoi il veut pas changer les règles du marché européen unique? C'est-à-dire que comme les États-Unis et la Chine, ils priorisent le Made in France dans les marchés publics, par exemple, ce que ne veut pas faire Emmanuel Macron et encore moins la Commission européenne qui se substitue au peuple et qui est pas élue d'ailleurs par les peuples. Ça serait un point important. Vous savez qu'aux États-Unis ou en Chine, vous avez dans les marchés publics une priorité donnée à la fabrication nationale. Vous allez même plus loin, les aides sont conditionnées, que ce soit les pays amis ou les pays eux-mêmes, à ce que ça soit fait entièrement et produit entièrement sur le terrain national. Mais ça, c'est du concret, par exemple. Nous, les agriculteurs, on les a pas oubliés. En Europe, pour défendre le Made in France, parce qu'on a des éleveurs bovins, porcins et toutes les filières qu'on connaît qui sont d'excellence et qu'on met pas ça en avant, et ben demain dans les cantines et dans les marchés publics, on aimerait bien qu'on mange d'abord français avant de faire importer par des traités de libre-échange qui ont explosé durant 5 ans au Parlement européen par la majorité d'Emmanuel Macron, de pouvoir prioriser nos agriculteurs.
Voilà.
Là, c'est du concret.
Oui.
Moi, je parle pas de Versailles et des milliards.
Je rappelle que vous êtes en campagne, donc c'est aussi
c'est intéressant. C'est bien de défendre des idées, la démocratie, c'est ça.
Je rappelle aussi que vous êtes en campagne, comme c'est un.
Non, mais vous n'êtes pas là en analyste, vous êtes là en militant. Donc voilà, c'est bien que vous resituiez les choses.
Je viens de la société civile, madame. Avant, j'étais pas politique. Si je m'engage dans un parti, c'est que j'estime qu'il est mieux à même de répondre aux problèmes du pays.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est Benjamin, chef d'entreprise, quand on annonce comme ça 15 milliards, il y a forcément des annonces. Je le disais, par exemple, voilà, je vous lisais les propositions d'installation de groupes de pointe, finalement, par exemple sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y en a plein d'autres, 56 projets comme ça qui sont annoncés. Ça donne du business aussi par ricochet à plein de gens, quand même.
Bien sûr, et là,
pourquoi ne pas l'oublier, je ne sais pas.
Oui, de façon objective, 15 milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie française, je ne connais personne qui peut aujourd'hui cracher sur ces investissements de façon pragmatique au regard de la situation économique de notre pays. Je rappelle quand même que nous avons 3100 milliards de dettes, que nous avons des dépenses publiques exsangues et qu'il va falloir faire rentrer des cotisations sociales à défaut de faire rentrer plus de fiscalité. Parce que l'attractivité, effectivement, elle est belle quand on regarde les 15 milliards. Je suis allé chercher, Christine, un indice d'attractivité des territoires 2024 qui est pondu tous les ans par les conseillers du commerce extérieur, donc qui sont une antenne gouvernementale, et on regarde un petit peu quels sont les critères finalement qui jouent sur l'attractivité ou non du territoire. Et malheureusement, entre 2024 et 2023, c'est la sûreté des personnes où l'indice de confiance perd 12%. D'accord. Le coût de la main d'œuvre, on est moins attractif de 3%. Sur les charges administratives, la France est moins intéressante de moins 1,3%.
Ah oui.
La
mais
qualité de la main d'œuvre, par rapport à l'année dernière.
Ah, par rapport à l'année précédente. C'est une année, c'est N-1, ok.
Voilà, par rapport à N-1, donc l'attractivité, l'indice de l'attractivité.
Donc il y a des signaux d'alerte, quoi, c'est ce que vous dites, Benjamin.
L'ensemble de ces items sont à la baisse entre 2023 et 2024, notamment sur la qualité de la main-d'œuvre. Donc je tiens à préciser que c'est réalisé par les chambres extérieures, donc ça veut dire que c'est la perception des étrangers sur les choix d'investissement dans notre pays. Donc je trouve que. Félicitons-nous de ces 15 milliards d'euros. En revanche, regardons cette perception qu'ont les étrangers, et je crois que ça matche quand même pas mal avec les revendications que portent tous les entrepreneurs, les petits, les auto-entrepreneurs comme les grands groupes, qui est celui de moins de fiscalité et moins de charges, et de maintenir une qualité dans le niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, parce que même les étrangers sont en train de se rendre compte que le niveau baisse en France. Donc voilà les points d'alerte quand même sur cette belle nouvelle que sont les 15 milliards.
Ouais. Geneviève, rajoutez un commentaire supplémentaire à propos justement de l'éducation. Je vous invite à regarder effectivement les universités qui sont au bord de l'asphyxie financière, puisqu'effectivement dans les coupes budgétaires qui ont été décidées pour relever, donc c'est les universités qui payent, enfin tous les cas qui seront le plus impactés par les ristournes. L'heure tourne, mesdames, messieurs, donc on va s'intéresser au deuxième sujet d'aujourd'hui. C'est le début de l'examen en commission du texte du projet de loi sur la fin de vie, un texte que le gouvernement qualifie de texte équilibré. Mathieu Vallée, alors c'est un sujet sensible, ça touche au cœur de la vie des familles et de chacun. C'est chacun face à sa décision finale, mais cette notion, ce débat qui va être être portée à l'Assemblée nationale avec la possibilité de donner un droit à mourir avec des règles strictes pour encadrer tout ça. Vous, Mathieu, quelle est votre position en dehors de tout schéma On sait que les différents groupes politiques auxquels vous appartenez maintenant ont dit chacun est libre de conscience là-dessus.
Non, mais moi, je trouve que la loi Leonetti, qui organisait déjà la fin de vie avec les soins palliatifs, était déjà une grande avancée. Mais dans la réalité, puisqu'on parlait tout à l'heure de Choose France avec l'arrêté des territoires, c'est que dans chaque département, vous n'avez même pas la possibilité donnée aux personnes en fin de vie d'avoir accès à ces soins palliatifs par manque de personnel, par manque de moyens, par manque de lits, par manque de volonté politique. Et c'est déjà un premier pas et une avancée énorme de pouvoir permettre à ces gens de mourir dans la dignité. Moi, ce que je veux pas, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté, parce que c'est quand même aujourd'hui des notions qui sont pas celles dans notre histoire et dans notre civilisation que d'être sur ces sujets-là. Maintenant, je vais vous dire, quand vous avez une personne qui souffre, quand vous avez une personne atteinte de maladie dont elle sait qu'elle va mourir, c'est une décision qui pour moi est individuelle, qui doit se concerter avec la famille, avec l'équipe médicale et le médecin. Et c'est pour ça que moi, je vous dis à titre personnel, je suis très attaché, comme pour toutes les personnes qui ont des infections longue durée en France, qu'on puisse pouvoir avoir des équipes médicales fidélisées, un médecin qu'on connaît bien, qui a la confiance de la famille, qui a la confiance du patient et qui donne la certitude aux personnes, quel que soit leur lieu d'habitation et quel que soit leur lieu de résidence, de pouvoir accéder à ces soins palliatifs, parce qu'on voit que là où il y a des soins palliatifs, des équipes médicales fidélisées en nombre, en formation et en appui, on a des accompagnements de vie qui se passent très bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, la réalité de nos hôpitaux, c'est un peu comme pour la filière psychiatrique. On n'a absolument pas une volonté politique qui est mise dessus entre les fermetures de lits des urgences, des maternités, de la psychiatrie et maintenant des soins palliatifs. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité. Vous l'avez dit, avec 3100 milliards de dettes, malheureusement, au-delà des universités, vous avez tous les pans entiers d'administration qui tiennent la colonne république de la colonne, pardon, de la République, qui sont aujourd'hui en train de pâtir de ces coupes budgétaires.
Je crois que la loi Leonetti, effectivement, permet déjà beaucoup de choses et que en réalité elle permettait déjà quand quelqu'un souffrait trop et voilà en accord avec la famille que les médecins ne s'acharnent plus et à un moment très tranquillement laissent la personne partir, donc ça existait déjà. Alors cette loi, oui, c'est un cas de conscience, de toute façon, pour chaque député, chaque sénateur, au moment où il va mettre son bulletin dans l'urne. C'est forcément une loi qui... Enfin, les choix sont individuels et évidemment, chaque groupe va laisser la liberté de choix aux élus et c'est complètement normal. La question que ça pose, moi, je pense de manière très humaine quand même, c'est celle de la collégialité de la décision et de qui va accomplir l'acte final. Qui va l'accomplir ? Est-ce que, effectivement... La loi prévoit, enfin dans ce qui est en discussion, que ce soit éventuellement la personne concernée, bon encore faut-il qu'elle soit en état de le faire elle-même, un professionnel de santé, bon, ou sans ça un volontaire désigné par la personne concernée. Je préfère ne pas me mettre à la place du volontaire désigné. Je pense que au moment de faire son deuil d'un être cher, savoir qu'il aura lui accompli cet acte ultime, ça peut être, je ne sais pas si on mesure parfaitement ce que ça peut signifier sur le plan psychologique ensuite pour la suite de sa vie personnelle. Voilà.
C'est un sujet difficile. Fabrice, sur projet de loi qui arrive donc.
Je crois que tout a été dit autour de la table et je salue le recul, la hauteur de vue, y compris quand on est militant politique. Je salue la hauteur de vue et le recul par rapport à ce sujet-là, dont je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir un avis aussi tranché. Par moment, on entend des gens qui vous disent je suis absolument contre pour telle raison, je suis absolument pour. C'est tellement personnel et il faut tellement avoir été plongé là-dedans pour comprendre réellement que je ne vois pas comment on peut avoir un avis au-delà des avis liés à l'éthique, etc. Très honnêtement, tout a été dit là, tout a été dit. Moi, je suis très touché par les propos qui ont été tenus sur le plateau parce que ils montrent à quel point le sujet est profond et difficile en fait.
Oui, Benjamin, pour terminer le tour de table.
Oui, pour conclure sur ce sujet, je crois que effectivement la hauteur de vue qui a été prononcée résume tout. Moi, j'aurais aimé, si je dois pointer juste un point de gêne sur ce sujet, afin de le dépassionner au mieux, ça aurait pu être pertinent de le décaler après les élections européennes pour éviter qu'il y ait des passions exacerbées qui viennent être instrumentalisées ce sujet épineux fameux et délicat au travers des élections. Donc voilà, c'est le seul point de bémol que je mettrais à ce sujet. Mais... Et enfin, dernier point, j'aurais aimé qu'on s'attelle encore plus durant ces mandats de Macron à travailler sur la dépendance avant de parler de l'euthanasie. Voilà.
Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio et on va s'intéresser, puisqu'on a un représentant du Rassemblement National qui est en campagne. Faut-il que votre présidente, Madame Marine Le Pen, débatte avec Emmanuel Macron? C'est le débat qui agite la classe politique et médiatique aujourd'hui. On va se poser la question tous ensemble dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils sont à 2,29€.
Les abricots?
Eh oui, en ce moment, ils font la barquette de 500 grammes à 2,29€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous, hein.
Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 20%, soit 1,83€ la barquette de 500 grammes.
Va pas à l'abri, mon coco.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 4,58€ le kilo, 3,66€ avec l'application Lidl Plus. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio Dax
102.
Sud Radio.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Chez Ixina, votre cuisine est conçue sur mesure. En plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Et en plus, elle est garantie 10 ans. Ah oui, et en plus, en ce moment, c'est TVA offerte. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur Ixina.fr.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco. Cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Me voyez-vous? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599€ par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai vu que pour la fête des mères, vous faites une promo sur une brosse qui sèche les cheveux et qui coiffe en même temps.
Tout à fait, elle est top.
Bah, je voulais vous dire que c'est une super idée. Parce que faire deux choses en même temps, nous les mamans, ça nous connaît.
On est là pour vous simplifier le quotidien. Alors du 14 au 25 mai pour la fête des mères, la brosse soufflante Revlon avec 10€ de réduction est à 39,90€.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.
En compagnie de Benjamin Cauchy, Fabrice Hakoun, Mathieu Vallée, Geneviève Götzinger, on évoque maintenant cette idée qui agite le landerneau politico-médiatique, à savoir le souhait qu'aurait émis, selon la presse, hein, selon la Tribune Dimanche, c'est des informations donc qui sont sorties hier dans les colonnes de la Tribune Dimanche, une tentation chez Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen avant le scrutin du 9 juin, Marine Le Pen qui n'aurait pas dit non, en tous les cas, qui se laisserait également tenter. Alors évidemment, tout ça n'est absolument pas confirmé, ni d'un côté, ni de l'autre, mais c'est des supputations. Comme nous avons Mathieu Vallée avec nous, candidat RN pour les européennes, est-ce que vous avez plus d'informations, Mathieu, sur cette possible tête-à-tête médiatique entre
Marine Le Pen
et Emmanuel Macron?
Marine Le Pen a répondu hier à l'agence France Presse sur ce sujet-là. D'abord, je vais vous dire que Valérie Hayé, avec des amis comme Emmanuel Macron, Gabriel Attal, n'a pas besoin d'ennemis. Parce qu'elle est tête de liste aux élections européennes, mais Gabriel Attal va débattre le jeudi 23 mai avec Jordan Bardella, parce qu'il estime sûrement que le débat qu'a eu Valérie Hayé sur BFM TV avec Jordan Bardella était désastreux. Vous avez maintenant Emmanuel Macron qui veut être tête de liste aux européennes, puisqu'il veut lui-même descendre dans l'arène en débattant avec Marine Le Pen. Je trouve que pour une tête de liste aux européennes du Parti de la Majorité, c'est désastreux. C'est un désaveu cinglant de la Macronie vis-à-vis de sa tête de liste. Et en plus, j'ajoute que ça fait des mois qu'on est suranné par le parti présidentiel, par Emmanuel Macron, qui dit oui, le Rassemblement national nationalise l'élection, c'est pas un troisième tour de l'élection présidentielle, des élections législatives. Mais en tout cas, en faisant ce genre de proposition, en tout cas, la presse en relatant ce genre d'idées ou de propos prétendus tenus par le chef de l'État, bah, démontre que finalement, c'est toujours le en même temps, quoi. C'est que quand il avait l'impression qu'il gagnerait les élections, eh ben, c'était Valérie Allais qui y allait, enfin, parce qu'elle a bien voulu le faire, parce que tout le monde a déserté, donc elle a au moins le courage d'avoir été au front sur ce sujet-là. Ou soit, bah, quand il voit que c'est la panique totale liée au sondage, il va aller lui-même parce qu'il estime qu'il fera mieux que tout le monde. Donc, moi, c'est pas trop la confiance que j'ai comme définition. Je termine juste sur ça. Marine Le Pen fait confiance à Jordan Bardella. C'est Jordan Bardella qui fait les débats. C'est Jordan Bardella qui va débattre avec Gabriel Attal, avec Valérie Allais, qui a débattu avec Raphaël Glucksmann, qui a débattu et qui le fera encore sur une autre chaîne le 21 mai avec tous les candidats. Donc, je vous dis, moi, les élections européennes, on me dit que c'est pas des élections nationales. Et puis, quand ça les arrange, c'est des élections nationales, pas des élections européennes. Marine Le Pen, elle est prête à le faire s'il le faut après les élections européennes et vraisemblablement à la rentrée. Et ce qui serait bien de savoir, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron va faire pour le pays pendant les 3 années à venir. L'année dernière, il a fracturé, divisé le pays sur la réforme des retraites. Cette année, il fracture le pays sur l'immigration qui n'est pas contrôlée, avec tous les faits d'insécurité qui s'enchaînent et dont le gouvernement est malheureusement le spectateur impuissant. Donc tout ça, c'est des sujets concrets.
Benjamin, cette oui. idée qui circule, qui sans doute ne verra pas le jour, mais au moins ça a alimenté les conversations du dimanche en retour de week-end prolongé. Allons-y.
Oui, c'est ça. C'est si Toulouse FM ne fonctionnait pas bien dans la voiture pour aller au stade Ernest Vallon, on a pu en parler 2 minutes. C'est un peu l'idée. Je fais exprès de dire ça parce qu'honnêtement, c'est une information microcosmique. C'est-à-dire que ça n'intéresse que le microcosme. En revanche, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Emmanuel Macron est aux abois, parce que pour aller sortir l'artillerie lourde, Gabriel Attal, puis lui-même rejouer le troisième tour finalement de l'élection présidentielle de 2022, ça veut bien dire qu'effectivement les européennes sont à mi-terme aujourd'hui. C'est clairement ça. Emmanuel Macron serait prêt à mouiller la chemise, à faire un grand débat avec Marine Le Pen. Je crois que les Français s'en moquent complètement. Il est trop tard. C'est pas à un mois des élections européennes que Emmanuel Macron va pouvoir ripolliner cette année de catastrophe politique. Donc je crois que ça ne sert à rien, et je pense que ça serait une erreur que Marine Le Pen rentre comme ça dans cette élection européenne. C'est effectivement Bardella qui tient la tête de liste. On a déjà du mal, et on reproche parfois à Madame Hassan de prendre la lumière à la place de Manon Aubry chez LFI. Bon, là, j'ai envie de dire, il y a une tête de liste, c'est à lui de faire le job. Donc voilà, tout simplement. En revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est un débat juste après le 9 juin. Comme M. Bardella a dit qu'il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale s'il arrive en tête, impatient de voir un débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République, je vous demande de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout le monde l'attend, celle-là.
Ah, et directeur des programmes d'une chaîne de télé, ça sera donc effectivement la grosse bataille des audiences autour de tout ça. On continue le tour de table. Geneviève, est-ce que cette information, cette éventualité est totalement...
Je ne comprends pas le sens pour le président de la République de débattre décembre avec une présidente d'un parti politique. Enfin, pour moi, c'est juste une idée absolument hallucinante. C'est la promouvoir à égalité dans la fonction, quelque part dans une forme de parallélisme de fonction. Donc ça me semble tout à fait stupide. Voilà, c'est une élection européenne, l'idée me semble stupide. Après, d'ailleurs tous les deux ont beaucoup à y perdre. Lui, parce que de toute façon, aujourd'hui son discours n'imprime pas, on a vu le discours de la Sorbonne, ça n'a rien changé, ça n'a pas fait bouger les intentions de vote d'un iota. Donc, une mobilisation supplémentaire d'Emmanuel Macron sur l'Europe, je ne suis pas certaine que ça entraîne des voix pour Valérie Leyer. Voilà. Et du côté de Marine Le Pen, je ne suis pas certaine non plus que ce soit qu'elle ait intérêt non plus à débattre avec Emmanuel Macron, parce qu'elle n'est pas très bonne en débat face à Emmanuel Macron. On l'a vu déjà à plusieurs reprises. Donc, pour l'un comme pour l'autre, je ne vois pas l'intérêt. Ça me semble juste une idée idiote, en fait.
Voilà, ça c'est dit. Fabrice.
Ça serait intéressant de savoir d'où est née l'idée. Est-ce que c'est les médias en mal d'audience qui ont envie de faire un super débat? En tout cas, sur le fond, effectivement, il faut que ce soit après de toute façon. Mais après, ça peut avoir un intérêt qui est celui d'opposer deux visions de la société qui sont fondamentalement différentes, avec désormais un président qui est au pouvoir depuis plus de 7 ans. Et donc là, ça va être intéressant, parce que c'était facile pour lui, jeune candidat, fringant, aucun bilan, sortant de nulle part, vis-à-vis de Marine Le Pen il y a quelques années, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre-temps, elle a quand même réussi à obtenir 80 députés à l'Assemblée nationale,
88.
malgré un mode de scrutin qui l'en interdisait.
Majoritaire.
Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Elle a pris de l'ampleur, c'est une évidence, c'est une réalité. Elle a un poids dans le paysage politique aujourd'hui, face à un président qui, lui, maintenant, a été à l'exercice du pouvoir et donc ne peut plus... excusez-moi l'expression un peu triviale, se la raconter comme il a pu le faire à une époque. Donc là, les échanges peuvent être un peu rééquilibrés. Ça peut être intéressant, mais en tout cas après l'élection, parce que sinon, ça parasite complètement.
L'idée, ça serait avant. Enfin, ce qui est prévu, c'est avant.
Ça n'a pas de sens.
On constate quand même que le signal que les Français ont donné en juin 2022 aux législatives avec ses 88 députés, c'est que par exemple, toutes les propositions qu'on fait depuis des années, la suppression du droit des sols à Mayotte, bon, que nous, on veut sur tout le territoire national, parce qu'on estime que Mayotte, c'est pas un laboratoire, c'est un département à part entière de la France, que tout ce qui est la fin d'excuses de minorité, que Gabriel Attal recevra Jordan Bardella jeudi à Matignon pour l'évoquer, que ce soit sur la délinquance des mineurs, la suppression des allocations, l'expulsion des logements sociaux des délinquants multirécidivistes, on voit bien que c'est toutes des dispositions qu'on proposait depuis des années qui aujourd'hui sont reprises. Et je vais même plus loin pour terminer, quand vous regardez la composition du gouvernement Attal, il y a beaucoup de gens qui sont des anciens de l'UMP ou des Républicains, donc tendance de droite, qui aujourd'hui copient le programme du Rassemblement National sans pour autant intégrer nos rangs. Donc on voit quand même qu'on est en train de gagner le débat des idées par des propositions qui aboutissent et par des sélections, si j'ose dire, dans l'équipe gouvernementale qui sont un peu celles des idées qu'on défend depuis un certain moment, sans parler des Républicains qui sont pour un référendum sur l'immigration alors qu'ils étaient contre lors de la présidentielle, sans parler de tous ces sujets où finalement on a été faire de lance. Marine Le Pen, le pouvoir d'achat, c'est ce qu'elle a mis en premier dans le débat de la présidentielle en 2022.
Là, vous nous parlez de sujets franco-français alors que les électeurs vont devoir s'exprimer sur un projet européen.
Généralement, c'est pour ça qu'elle dit que c'est Jordan Bardella qui doit tenir les débats et la corde sur ce sujet des élections européennes. En plus, Jordan Bardella a été 5 ans député européen en 2019. Et puis vous savez, je veux juste terminer sur ça, vous ne l'avez pas évoqué quand vous parlez de moi. Citez-moi une autre liste où il y a autant de personnes issues de la société civile qui sont venues. On a Fabrice Légéry, on a Malika Sorel, on a votre humble serviteur, on a tous ces gens avec des parcours de métier, des parcours d'engagement au sein de la République. Fabrice Légéry à Frontex, Malika Sorel en tant qu'ancien membre du Haut Conseil d'intégration et moi en tant que policier. Et je trouve qu'il y a
on
aucune
autre liste. On appelle ça des prises de guerre dans notre jargon.
Non, moi j'appelle ça une chance donnée à la société civile de pouvoir peut-être parler un peu plus de terrain plutôt que le discours technocratique à Bruxelles qui nous pond des décisions qui ont ni queue ni tête dans le quotidien des Français. Pour la liste de d'Emmanuel Macron.
Le profil très société.
C'est tout.
Le profil très société civile de l'Assemblée nationale post-2017 a quand même montré ses limites. Donc la société civile dans la politique, moi j'en suis moyennement convaincue. Je trouve que c'est quand même un petit peu osé de dire qu'il y a aujourd'hui dans le gouvernement de Gabriel Attal des gens qui sont proches de vos idées. Je pense pas que
Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu viennent de la droite.
Ok, mais pas de l'extrême droite. Pardonnez-moi, Sébastien Lecornu.
Moi, je suis de la droite républicaine.
Vous vous définissez comme vous voulez, mais Sébastien Lecornu, Gérard Darmanin ou Bruno Le Maire n'ont jamais été proches des idées du Rassemblement national,
à ma connaissance. À Mayotte, c'est pas une idée du Rassemblement national, madame.
Non, mais c'est pas parce que vous prenez la suppression du droit du sol à Mayotte et qu'elle est reprise par Gérald Darmanin sur un point précis qu'il est proche du Rassemblement national. Il ne l'a jamais été.
Mais Valérie Hayé, quand elle prône le juste échange au lieu du libre-échange, c'est pas une proposition non plus du Rassemblement national. Je peux faire tous les sujets. Sur la sécurité, c'est pareil. Donc il y a beaucoup d'idées qu'on porte. Pardon, c'est dans le cadre des élections européennes. Mayotte, c'est la France.
Je rappelle que vous êtes en campagne. Hein, donc de toute façon, ça fait partie. Ça
je pense
sera
que vos éditeurs ont bien compris.
Je le redis aussi. C'est important.
Que
le gouvernement de Gabriel Attal n'est pas un gouvernement avec des ministres proches du Rassemblement national.
Cas, allez, on est obligé de s'arrêter de parler parce que derrière, il y a l'info qui arrive avec derrière les programmes de Sud Radio. Merci à tous les quatre.
Merci à vous, madame.
Merci.
Pour ce débat du reprise après un week-end prolongé lundi 13 mai. On n'a pas eu le temps de parler du congé de naissance qui va sans doute faire jour qui a été proposé également. On y reviendra demain bien sûr sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. À demain dans un instant. André Bercoff jusqu'à 14h.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Eh, viens voir. Le voisin s'est découvert une passion pour les plantes. Il en met partout sur son balcon.
Mais non, il se prépare pour les fortes chaleurs.
Avec des plantes ?
Oui, avec des plantes.
Et oui, les fortes chaleurs vont arriver plus tôt et durer plus longtemps. Alors pour vous protéger, préparez-vous dès maintenant en installant par exemple des plantes devant vos fenêtres pour bloquer les rayons du soleil. Découvrez plus de gestes simples sur vivreavecleschaleurs.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Sud Radio Ayer en DAB+.
Sud Radio.
Carrefour. Quand vous me dites, moi les légumes, je les préfère de saison et français.
Eh bien, je vous réponds que la botte de 500 grammes d'asperges violettes origine France est au prix le plus bas de 3,89 euros, soit 7,78 euros le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, calibre 16-22, détails sur carrefour.fr.
Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur deux, fissure en moins de 3 semaines. Alors, n'attendez pas. Chez Carglass, en 30 minutes, on le répare. C'est rapide et efficace chez nous. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote en version premium. Parfait pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse. Comme ça, zéro stress sur la route et zéro stress pour vos points. Alors, profitez-en maintenant. C'est jusqu'au 31 mai sur Carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Détails de l'étude et conditions sur Carglass.fr.
À tous ceux qui hésitent entre les rigatoni, les capellini, les tortiglioni, c'est le même goût, non ? À ceux qui cherchent la différence entre les spaghettis numéro 5 et les numéro 7, et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de numéro 6. Et à ceux qui vont repartir avec un paquet de coquillettes et basta. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet d'un kilo de pâtes Barilla à 1,98€, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 mai, 2 kilos soit 1,39€ le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Barcelone.
Oui.
Majorque.
Aussi.
Naples.
Oh, les Cinque Terres.
Oh, si tu veux.
Alors, on choisit ?
Choisissez-les toutes et vivez la magie de l'été avec Costa. Croisière de 7 nuits en pension complète à partir de 699€ par personne. Réservé avant le 9 juin. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
Amazon offre jusqu'à 8000€ pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développement